Ce matin, j'ai passé un très bon temps de prière avec Françoise dans la maison de prière là-haut, avant le culte. Et je vous invite tous à venir participer à ces temps pour préparer nos cœurs, nos esprits, nos pensées au culte qu'on rend ensemble pour notre Dieu, de pouvoir non pas arriver ici, faire quelques bises et puis voilà, être chargé de tout ce qui peut nous peser, de tout ce qu'il y a dans nos têtes. Mais ce temps avant le culte est très bon, de venir ensemble remettre le culte entre les mains de Dieu et de venir nous délester de nos problèmes pour nous focaliser sur le fait qu'on vient pour rendre gloire à Dieu avant toute chose. Et voilà, c'est un temps, je ne sais pas Françoise, à quelle heure tu commences, si tu es là tout le temps et qui sont les autres qui viennent. Vers 9h, voilà. Simplement d'arriver, et c'est bien de se saluer, d'accueillir les uns les autres, les frères, les sœurs. C'est aussi un temps où on accueille le Seigneur, comme on disait tout à l'heure, on l'accueille et il nous accueille. On a aussi prophétisé sur l'Église dans ce temps-là. C'est un temps aussi où on est là pour soutenir l'Assemblée. J'ai vraiment eu cette image quand j'étais là-haut à prier avec Françoise de cette église pleine, pleine avec des gens dehors, avec des gens qui rentrent, avec des gens qui partent, avec des personnes qui viennent dans les salles, là, qui sont enseignées avec les bases de la foi chrétienne, qui sont enseignées dans la théologie, qui sont enseignées pour le ministère et qui repartent servir et qui repartent impacter la ville et autour. Et de voir l'église, non pas avec nos yeux aujourd'hui, de dire ben, il manque du monde, et puis ça pourrait être plus ceci et moins cela. Et en fait, quand Jésus nous regarde, quand Dieu nous regarde, Dieu nous regarde au travers de Jésus. Et il nous voit déjà comme il est en train de nous former, il voit l'aboutissement, il voit que nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, que nous sommes formés à son image. Et en fait, je vous invite juste à regarder votre assemblée, votre église, avec le regard de Dieu. Oui, il regarde ce qui se passe en ce moment, mais aussi il regarde à ce qu'il est en train de préparer. Et ça donne vraiment beaucoup de joie déjà de voir ce qu'il prépare pour l'avenir de bon, d'excellent, et aussi de la force pour le présent, qui n'est pas toujours facile, la force de dire ben, on a des étapes, on les passe, mais c'est parce qu'on a la vision et on la reçoit de Dieu. On n'est pas en train d'imaginer quelque chose c'est pas de la fiction. Dieu a des plans, et des plans qui sont bons. Et de les saisir comme ça, de voir ce que Dieu veut faire dans cette église, ça permet de travailler ensemble. Et j'avais cette image aussi, comme on parlait, de pouvoir travailler ensemble à ce que cette église se construise. Chacun a sa place, chacun à sa personnalité, chacun a ses dons à mettre à disposition des autres, et c'est comme des pièces de puzzle qui doivent être assemblées. Par contre, il y a des fois où Dieu veut nous mettre quelque part et on a un coin qui est carré alors qu'il devrait être rond. Et il faut qu'on se laisse découper par Dieu pour nous situer là où il a prévu et qu'on puisse s'emboîter les uns à côté des autres pour que ce soit vraiment un corps avec des membres qui ne sont pas là pour se tirailler de droite, de gauche, mais qui sont là pour s'emboîter, pour travailler ensemble, et pour que ce soit constructif, que ce soit bénissant pour les uns, pour les autres. Voilà. Bon. C'était juste un temps de prière, de préparation à ce moment ensemble, et on en ressort des choses fortes et constructives et édifiante et bénissante et encourageante. Donc je vous invite à le faire autant que vous pouvez, d'être là en avance pour vous préparer, pour recevoir des choses et puis peut-être comme je peux vous le faire ce matin, de pouvoir le retransmettre et encourager les uns et les autres. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire ce matin. Vous aimez bien les histoires? Bon. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui vient de se marier et forcément très amoureux, envie d'être ensemble, de partager, d'apprendre à se connaître, etc. Et puis, il arrive que le mari doit partir pour son travail, doit partir assez loin. Et comme c'est loin, alors c'est pas à l'époque actuelle, hein, c'est avant Internet, avant le téléphone, etc. Et donc, ce mari doit partir loin pendant un long moment et il va seulement pouvoir communiquer avec des lettres. Et il promet à sa femme, il dit, moi, chaque jour, je vais t'écrire une lettre pour te dire ce que je vis, ce que je fais, pour prendre de tes nouvelles. Et la femme, forcément, elle est triste de le laisser partir pour une longue période, mais elle est toute contente de se dire, je vais pouvoir lire ces lettres d'amour qu'il va m'écrire et savoir ce qu'il vit, etc. Donc le mari s'en va et en effet, dès le premier jour, il lui dit, le voyage s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée, où est-ce que j'habite, qu'est-ce qui se passe. Il lui envoie cette lettre, il lui redit qu'il l'aime, etc. Il lui fait des poèmes dans ses lettres. Et puis tous les jours, fidèlement, il lui envoie cette lettre. Alors la femme, elle les reçoit, elle attend avec impatience, elle lit ses lettres et puis elle est toute contente de voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son travail, et puis de lire les mots d'amour de son mari. Après quelques semaines, elle aimerait bien qu'il soit à côté, en fait. C'est bien d'avoir des lettres d'amour, mais elle commence à les lire avec un peu moins d'entrain, et puis il y a des choses qui se répètent un peu. Hein, je sais pas si vous avez écrit des poèmes d'amour, mais au bout du 20e, ça devient compliqué de se renouveler. Hein. Et puis, elle comprend pas toujours tout parce qu'elle raconte des choses, mais elle connaît pas le pays, elle connaît pas les circonstances, elle connaît pas les gens, et du coup, elle a un peu de mal à lire avec entrain. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des mois, parce que ça dure. Elle commence à moins lire et elle prend le temps. Le mari gère tout à distance. Hein, il envoie de l'argent, il fait des choses pour que la femme puisse être bien, qu'elle puisse bien vivre à son quotidien. Et puis petit à petit, y a des jours où elle ouvre plus les lettres. Et puis ça s'accumule un petit peu. Et fidèlement, le mari continue à envoyer une lettre par jour et il aimerait bien avoir du retour. Alors, de temps en temps, la femme lui écrit un mot, mais en général, c'est parce qu'elle dit « Hop, j'aurais bien besoin de quelque chose. Je vais lire les 2-3 lettres des derniers jours et puis je vais lui répondre et puis en même temps lui demander qu'il puisse, m'envoyer plus d'argent ou s'occuper de quelque chose. » Et puis, ça dure 3 ans. Alors, 3 ans, c'est long. Et le mari revient et il est tout content, lui. Il est tout content, il va revoir sa femme. Sauf que sa femme, depuis le temps qu'elle a arrêté de lire ses lettres, elle ne croit plus vraiment à l'amour de son mari. Elle ne croit plus dans les attentions qu'il peut avoir. Et elle-même, elle se dit, finalement, est-ce que je l'aime encore? Parce que finalement, tout cet éloignement, tout ça s'est refroidi, en fait, avec le temps. Et le mari veut reprendre la vie amoureuse à où ça en était, parce que lui, il n'a jamais arrêté d'aimer et de démontrer son amour. Et puis la femme, elle ne l'a pas reçue. Et il y a cette différence entre la femme qui n'a pas fait attention à cette relation, à la manière dont la relation était maintenue, et le mari qui s'est dit, c'est le meilleur moyen, puisqu'à distance, je ne peux pas faire autrement, c'est le meilleur moyen de maintenir la relation. Et le mari ne comprend pas trop, et puis il se retrouve un jour à tomber sur le tas de lettres qui n'a jamais été ouverte. Et là, on imagine la déception, la tristesse, et qui est profonde, de se dire la personne que j'aime, elle n'a pas lu mes lettres d'amour. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est pareil avec Dieu quand on ne lit pas la Bible. C'est exactement l'état dans lequel Dieu se trouve quand il dit pourquoi mon fils, pourquoi ma fille ne lit pas la lettre d'amour que je lui ai écrite. Pourquoi il ne veut pas comprendre qui je suis, l'amour que j'ai. Pourquoi elle ne veut pas comprendre ce que je lui explique sur ce qui est bon, ce qui est joyeux, ce qui est édifiant. Pourquoi ne veut pas essayer de trouver les vérités dans tout ce que je lui écris? Pourquoi il y a ce manque d'amour? Pourquoi il y a ce manque de compréhension? Et ce matin, c'est pas avec du jugement que je veux venir devant vous, c'est juste avec le cœur du Père qui dit « Mais mon enfant, je t'aime et je te le dis. Je te le dis et tous les jours, tu peux sortir convaincu de cet amour en ayant plongé dans la lecture de ma parole. » Alors, on prie, c'est très très bien. C'est une manière d'être en relation avec Dieu qui peut être très intense avec le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui nous parle, qui nous dit des choses. Et il faut, c'est Paul qui dit, sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. C'est-à-dire être en relation spirituelle avec Dieu sans cesse. Mais on conçoit que entendre le Saint-Esprit nous dire des choses très précises, très détaillées tous les jours, c'est un peu compliqué. Alors que tout ce qu'il veut nous dire, il l'a déjà écrit. Et la façon la plus simple de savoir ce que Dieu dit, c'est de lire ce qu'il a écrit. Et quand on veut savoir qui est vraiment Dieu, c'est bien d'avoir une relation avec lui, avec le Saint-Esprit, de louer et de recevoir des paroles de sa part. Mais lire la manière dont il se décrit, dont il explique qui il est dans sa Bible. Et ce qui est très fort, c'est que lire la Bible, c'est aussi apprendre qui nous sommes, nous-mêmes. La Bible parle de qui est l'être humain, qui est l'homme, qui est la femme, en tant qu'enfant de Dieu, qui nous sommes. Les créatures merveilleuses qu'on a du mal à avoir avec nos yeux humains. Moi, merveilleux. La Bible dit. Et pourquoi il arrive telle chose? Et pourquoi la vie c'est ceci? Et pourquoi machin? Toutes les réponses sont là. Et on se retrouve des fois pendant des mois et des années à tourner autour du pot, à dire oui, mais ceci, oui, mais cela, mais pourquoi? Et puis de ne pas comprendre ce qu'on vit. Et en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses nous sont dites de manière très claire dans la parole. Alors, il y a eu un sondage qui est sorti l'année dernière, je crois, sur les protestants aux États-Unis. Alors, il semblerait que 32% des chrétiens protestants lisent leur Bible chaque jour. Bon, un tiers. Et que un peu moins, 27%, la lisent plusieurs fois par semaine. Donc on arrive à presque 60% de chrétiens qui lisent leur Bible plusieurs fois par semaine. C'est bien. Alors, c'est un sondage, je ne peux pas dire que les chiffres sont faux, puisqu'ils les ont sortis de leur sondage avec des centaines de personnes. Mais bon, j'en ai vu d'autres où la moyenne de la lecture régulière de la Bible était plutôt située entre 20 et 25% des gens de nos églises. Bon, ça veut quand même dire dans ce sondage que 40% des chrétiens ne lisent presque pas leur Bible. Ça fait quand même beaucoup. Et la question ce matin, c'est est-ce que je suis plus du côté de la lire régulièrement ou de ne pas la lire régulièrement? Et est-ce que je peux saisir l'intérêt de cette lecture quotidienne? C'est juste pour s'auto-évaluer, se dire, ah, si j'en fais une loi biblique, est-ce que je l'applique ou pas? Il m'est arrivé pendant des périodes de ma vie où j'avais pas envie. J'avais pas envie de lire la Bible. Et ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver dans des saisons. Et il y a d'autres fois où j'avais pas envie de m'arrêter de lire, d'essayer de comprendre. Et quand on retire du bénéfice, c'est facile d'aller vers la Bible et puis d'essayer de creuser. Par contre, quand la lecture nous semble sèche, qu'on a l'impression de rien en retirer, c'est difficile. Et il y a des personnes qui m'ont dit, oui, si on y va sous l'angle de l'obligation, ça ne marche pas. Parce qu'on va s'obliger à lire, et puis finalement, on va cumuler ces expériences de sécheresse. Et donc, ça va nous éloigner encore plus, parce que plus on va cumuler le fait de la lire sans en retirer quelque chose, et plus ça va être difficile d'y revenir. Et moi, j'ai vécu tout le contraire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu des épisodes où j'avais pas envie de la lire, je m'obligeais à la lire. Parce que, en fait, l'amour de la parole vient avec la lecture de la parole. À un moment donné, quand on demande au Saint-Esprit, jour après jour, pendant des semaines, je veux comprendre, je veux te rencontrer au travers de la lecture, le Saint-Esprit, c'est pas une prière qu'il laisse de côté. Il va finir par nous permettre de retrouver la compréhension, de retrouver la nourriture qu'on cherche à obtenir au travers de cette lecture, à retrouver la relation à Dieu au travers de cette lecture. Et c'est pour ça que je vous encourage, quelle que soit votre situation, à dire, ben, je prie, je lis une fois par semaine, c'est bien, ben, la semaine prochaine, essaye de lire deux jours, et puis trois jours, et puis quatre jours, et puis tu n'arrives pas à en retirer quelque chose, mais ne cesse pas de demander au Saint-Esprit, avant ta lecture, de dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, je veux comprendre. N'hésite pas à dire, je lis d'une manière, je commence à Genèse, je lis tout jusqu'à Apocalypse, c'est une manière de faire. Il y en a tellement d'autres. Prenez des plans de lecture. Insistez sur les passages, sur les livres qui vous plaisent, dans le sens où vous en retirez un bénéfice dans votre relation avec Dieu. Et plus tard, vous allez voir que les liens sont toujours là, de l'Ancien au Nouveau Testament, dans tous les sens. Vous aimez bien les lettres de Paul. Ben, nourrissez-vous des lettres de Paul. Mais rendez-vous compte de toutes les fois où il cite l'Ancien Testament, où il se sert de l'Ancien Testament, où c'est sa fondation à lui. Et de là, de pouvoir aller basculer en disant, tiens, mais c'est vrai, il cite les psaumes, là, il cite tel passage. Qu'est-ce qui a nourri Paul pour écrire ces lettres? Et d'aller vous en nourrir vous-même. Il y a toute une manière d'augmenter notre attachement à la Bible. Alors, on peut dire que c'est long. Alors, j'ai fait un petit calcul. Il y a 1189 chapitres. Alors, on peut dire que ça fait beaucoup. Si on en lit un par jour, ça fait un peu plus de 3 ans. C'est pour ça que je racontais mon histoire avec ce mari qui part 3 ans. Un chapitre par jour, c'est quand même pas long à lire. Ça prend 3 ans. Bon, c'est un petit peu long quand même. Est-ce que vous connaissez la longueur du plus petit chapitre? ?117, il fait combien de versets?
2.
2. Le 150 est encore plus court. Non? Moi, j'ai trouvé... Je n'ai pas cherché, en fait. Je suis juste tombé sur le 117. J'ai dit, oh, celui-là, il est petit. Il fait 2 versets. Je n'ai pas la réponse officielle. Le plus long, c'est le 119. Alors, vous voyez, en fait, vous lisez un chapitre, ça fait 2 phrases. Bon, on ne peut pas dire que c'est long. Et en fait, j'ai fait un petit calcul un peu plus loin. J'ai regardé, la Bible, il y a à peu près 715 000 mots. Alors, je ne les ai pas tous comptés à la main. Alors, si on divise par le nombre de jours dans l'année, ça fait à peu près 2000 mots par jour. 2000 mots par jour. À la vitesse de lecture d'un adulte, une petite vitesse de 200 mots par minute, c'est petit, parce qu'un adulte peut lire jusqu'à 250, 300 mots par minute correctement. Si on lit à 200 mots par minute, ça fait qu'en 10 minutes de lecture par jour, on lit la Bible dans l'année. C'est quand même pas beaucoup, 10 minutes. C'est moins que le temps qu'on passe sur Facebook, c'est moins de temps qu'on passe devant les publicités à la télé. Voilà. 10 minutes par jour, on lit la Bible dans l'année. Donc, se dire que c'est long, c'est pas tout à fait une bonne excuse. Après, se dire que c'est compliqué, c'est autre chose. Parce qu'il y a Pierre qui dit en 2 Pierre 3, 16, il y a des points difficiles à comprendre. Et là, il est en train de parler des lettres de Paul. Et j'aime bien ce passage. On va le prendre. 2 Pierre 3, 15 à 18. J'ai peut-être pas la même version. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Bon. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire ? Croire que la patience de notre Seigneur est notre salut. C'est la force, déjà, du message que Paul transmet. Paul nous dit le salut au travers de Jésus-Christ, c'est ce que contient les écrits de Paul. Et puis, plus loin, Pierre nous dit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. » C'est-à-dire que même ces passages des lettres de Paul qui sont compliqués, Pierre nous dit « Mais comprenez-les. » Parce que si vous en tordez le sens, si vous êtes ignorant, si vous ne les comprenez pas, si vous êtes mal affermi dans votre foi, dans votre croyance et dans les vérités bibliques, vous allez tordre le sens de ce que vous lisez pour votre propre ruine. Il va quand même loin. C'est-à-dire que la mauvaise compréhension de la Bible, ça nous amène à une certaine perte de notre vie. Et il va plus loin. Bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Là, c'est les versets d'après. De peur que, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et là encore, des personnes, les impies, c'est-à-dire des personnes qui ne comprennent pas la parole et qui peuvent la tordre et qui peuvent nous emmener dans des fausses théologies et dans une foi qui est tordue, qui n'est pas la réelle foi en Jésus-Christ. Tout ça, ça peut nous égarer dans notre compréhension, dans notre vision des choses et nous déchoir de notre fermeté, c'est-à-dire de nous mettre en doute par rapport à la foi, par rapport à qui est Dieu. Et il conclut, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Donc Pierre nous invite à croître dans la grâce et dans la connaissance. La grâce, c'est bon. On profite, entre guillemets, de ce que Dieu nous donne, de sa présence, et on est renouvelé en lui. Mais il n'y a pas que les choses qu'on peut ressentir. Dieu nous a donné un cerveau. C'est aussi pour qu'on s'en serve pour accroître notre connaissance et notre compréhension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça demande un certain travail. Le Saint-Esprit ne va pas venir en nous et nous donner toute la compréhension, la science infuse et tout le reste d'un coup de baguette magique. Mais il veut nous travailler au fur et à mesure, tout au long de notre vie, qu'au travers de nos expériences, de nos rencontres, on puisse mieux comprendre, on relit un passage, au lieu de se dire « Oh purée, j'ai déjà lu 10 fois ce truc », on se dit « Seigneur, viens me révéler quelque chose de nouveau. » Parce qu'il y a des profondeurs dans la parole qui sont totalement incroyables. Et une fois qu'on l'a lu 10 fois en français, bah peut-être que si on se met à le lire en grec, on va comprendre des profondeurs supplémentaires. Mais c'est ça, de faire travailler notre intelligence, notre connaissance. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à apprendre le grec, il y en a qui le font très bien et qui retransmettent les pépites qu'ils découvrent. Il y a ça aussi. C'est pas juste que nous, avec notre Bible et le Saint-Esprit, on est autosuffisants, pas du tout. On est un corps et justement, on va chacun, dans nos lectures quotidiennes, avoir des révélations, avoir des compréhensions. Et si au début, à la fin du cul, je dis « Oh purée, j'ai lu ce passage cette semaine, ça m'a parlé de telle manière, mais ça va encourager l'autre. » Ça va aussi lui permettre de recevoir les connaissances et compréhensions que vous avez reçues. Et vous êtes là aussi pour édifier vos frères et vos sœurs dans, au travers de ce que le Saint-Esprit vous montre dans votre lecture. Donc il n'y a pas ces temps quotidiens, c'est nourrissant pour vous, mais c'est aussi nourrissant pour ceux qui vous entourent. Alors, j'aimerais juste prendre un petit exemple pour vous montrer tout ce qu'on peut tirer d'une manière très simple. J'ai fait ça en quelques minutes sur un passage de Ésaïe 41. Il y a une diapo là-dessus. Ésaïe 41. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Ouais, ça... J'en ai un à la maison, je sais ce que c'est. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Alors c'est un texte vraiment, vraiment que j'aime beaucoup. Ça fait 4 versets. Très rapidement, j'en ai tiré 17 points. L'homme n'a pas assez de connaissance de la vérité, il croit en des mensonges. Hein ? Et là, pourquoi tu affirmes des choses qui sont fausses ? C'est Dieu qui lui demande, pourquoi tu crois des mensonges ? Je ne vais pas tout détailler, j'ai 17 points. L'homme croit que Dieu ne s'occupe pas de lui. C'est pas ? L'homme croit que Dieu n'est pas juste. Mais Dieu invite à apprendre. Apprendre quoi ? Bah, qui est Dieu ? Dieu est éternel, il est le créateur. Il travaille sans se fatiguer. Il est l'intelligence suprême. Il s'occupe de celui qui est fatigué. Il donne des ressources à celui qui en manque. Tout ça là-dedans. L'homme est plein de faiblesses, même dans la fleur de l'âge. Mais Dieu prend soin de manière plus particulière de ceux qui se confient en lui. Les derniers points sont sur le croyant. Les croyants tirent leur force de Dieu lui-même. Les croyants renouvelés peuvent voler au-dessus des soucis. Là, c'est comme on prend notre envol. Hein ? Les croyants renouvelés peuvent voir de loin. C'est typique de l'aigle. C'est cette image de l'aigle qui voit de loin. Et au lieu de regarder juste ce qu'on a devant nous, on peut s'élever, voir les choses du ciel comme Dieu le fait, et voir, comme j'ai fait tout à l'heure, la vision de ce que Dieu prévoit que cette église va vivre. Et quand on voit les belles choses que Dieu a prévues, eh bien, ça renouvelle nos forces pour le quotidien, pour le présent. Les croyants renouvelés sont actifs. Amen. Hein ? On bouge, on court, on marche. Les croyants renouvelés ne s'épuisent pas, mais ils tirent leur force de Dieu. Ça, c'est un exemple. Juste quelques versets. J'ai tiré 17 points. J'ai fait ça rapidement et on pourrait, à mon avis, parler très longtemps de ce petit passage. Donc il y a des mines pour savoir qui est Dieu, qui est l'homme, qui est l'enfant de Dieu, et qu'est-ce que Dieu veut faire et comment il veut le faire. Et c'est une mine. Ces 4 versets, on pourrait en faire des études bibliques très très poussées. Est-ce que vous voulez un exemple un peu plus compliqué ? Juste pour, j'aimerais juste démontrer que en fait, la Bible s'auto-explique en quelque sorte, et que souvent on passe sur des passages en disant, on comprend rien. Mais c'est sûr qu'il y a des passages prophétiques un peu qui sont obscurs. On a l'avantage d'avoir des Bibles d'études. Là, moi, par exemple, il y a plus de commentaires que de textes bibliques. Alors. C'est pas bien dans un sens, parce que l'intérêt, c'est pas de croire dans les commentaires, c'est de croire ce que dit la parole. Par contre, quand on a des éclaircissements sur historique, ne serait-ce qu'historique, d'avoir une explication qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de l'époque. Quand Pierre écrit tel mot ou telle phrase. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de l'époque qui vont lire? Et du coup, ça nous donne, par exemple, dans les circonstances, tiens, bah, Paul écrit aux Corinthiens, bah, à Corinthe, à cette époque-là, il y avait le culte de telle idole. Et donc, quand Paul dit telle chose, c'est en rapport. Tout ça, ça vient nous éclairer sur la manière dont les premiers chrétiens ont compris. Et nous, on peut avoir notre compréhension aujourd'hui avec notre grille de lecture actuelle, mais rien que de se dire, tiens, les Corinthiens vivaient ça, donc ils ont interprété d'une autre manière, c'est pas que ça vient nous défausser, c'est que ça vient enrichir la lecture en disant, oui, tiens, si je me remets dans la peau du gars il y a 2000 ans, il a dû comprendre ça autrement. Et moi, ça peut aussi venir me parler sur quelque chose qui est un peu à côté de ma première compréhension. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est, elle est différente, elle est complémentaire, elle enrichit. Alors, si quelqu'un vient, admettons, n'importe, un non-croyant vient et vous dit donc quand même, la Bible interdit aux femmes de porter des tresses. Qu'est-ce que tu réponds à ça? La première chose, c'est que tu dis, la Bible n'interdit pas aux femmes de porter des tresses. Tiens, si tu veux bien nous mettre la deuxième diapo. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est Ésaïe 40. Bon, si elle a vérifié, elle a vérifié. Alors, on est dans 1 Timothée. 1 Timothée, alors Paul dit à Timothée, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. La Bible dit que les femmes ne doivent pas porter de tresses. C'est quand même écrit. Ah oui? Ben je veux. Alors, d'accord, on peut dire, bon, ben, Paul, il veut des trucs que Dieu veut pas, et il nous le dit au milieu de choses qui sont quand même des enseignements bibliques, quoi. Bon. Alors, on en fait quoi? Oui, alors, ça c'est une manière un peu dangereuse de faire, parce que on peut reprendre beaucoup de choses bibliques en disant c'était des circonstances. De toute façon, les circonstances de maintenant, 2000 ans après l'écriture de la Bible, on peut dire que on peut mettre beaucoup de choses de côté. Parce qu'on pourrait dire, le plus gros piège, par exemple, c'est de se dire, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas la libération des mœurs, on n'acceptait pas dans la société tout ce qui est homosexualité, etc. Bon, maintenant, on n'est plus à la même époque, donc ça n'a plus de valeur. À ce moment-là, on ne peut plus faire le tri entre ce qui est une vérité biblique, un principe divin, et qu'est-ce qu'on peut estimer être pour avant et puis qu'on n'a plus besoin d'appliquer. Il y a quand même ne tue pas, ne vole pas et tout ça. Bon, voilà, les 10 commandements restent les 10 commandements. Mais après, il y a quand même pas mal de principes bibliques. Bon, je crois que je ne vais pas du tout aller au bout de mon message, mais c'est pas grave. Je lisais 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides. Les cupides, ça pas. Bon, le gars, il veut de l'argent. Eh ben non. Ni les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bon, on est. Des ivrognes, ils en avaient, on en a. Des cupides, on en a aussi encore beaucoup. Et tout le reste n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, on a quand même encore des passages qui nous redonnent des manières de vivre avec des principes bibliques. Il faut savoir qu'est-ce qui est du principe biblique et qu'est-ce qui est de quelque chose qui pouvait s'arrêter à l'époque. Quand on lit l'Ancien Testament avec les sacrifices, la Bible dit, Jésus est venu, c'est lui le sacrifice. On n'a plus besoin d'aller égorger des agneaux. C'est clair, la Bible dit que cette époque est révolue. Quand on lit dans l'Ancien Testament, ben non, l'homosexualité, c'est interdit. Et quand on lit dans le Nouveau que c'est toujours interdit, on se dit, bon, ben là, il y a un principe qui va rester, qui va demeurer, parce que c'est quelque chose que Dieu déclare et qui est une règle éternelle, on va dire. Alors, pour en revenir à notre S, comment on va essayer de comprendre ça, si on revient à la diapo de tout à l'heure? Ah oui, mais bon, si on lit le verset tel quel. Se parer, ça veut dire qu'on s'habille, en fait. Donc, il est en train de parler de la manière dont on va se s'habiller. Alors, c'est sûr que on doit se dire qu'il y a un truc bizarre. Si on revient, il y a le mot aussi. Et c'est ça que souvent, dans la Bible, nous permet d'aller décortiquer. S'il y a un aussi, c'est-à-dire qu'il y a un verset avant, qui est en lien. Le verset d'avant, c'est quoi ? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Donc, le verset 9, c'est sur les femmes. Le verset d'avant, 8, c'est sur les hommes. Et il y a un donc. S'il y a un donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant et que le passage découle de ces versets avant. Et on lit versets 5 à 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors, en résumé, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Donc les hommes doivent prier en levant les mains et les femmes n'ont pas le droit de porter de tresse. Bah, si on résume les versets, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, les hommes doivent prier en élevant les mains, et les femmes ne peuvent pas avoir des tresses, des perles et des habits somptueux. Donc, venez là habillés en sac. Et puis, les hommes, surtout, faut lever les mains, sinon ça ne marche pas. Alors, on comprend qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut aller creuser, là. Et la logique, c'est déjà de reprendre dans le contexte. Comme on disait, le contexte, un verset tiré de son contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. Alors, si on va à la diapo d'après rapidement, on peut rentrer dans une étude, et là, c'est pour ça que je vous dis, profitez des enseignants, de ceux qui réfléchissent et qui expliquent, parce que vous n'allez pas forcément aller regarder dans le grec, le fait que « je veux » n'existe pas. Dans le grec, Paul n'a pas écrit « je veux ». Il n'y a pas ce verbe. Il a écrit aussi les femmes, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Là, les termes, on vous explique que ça c'est assez compréhensible, mais en fait, on dit qu'il faut que ce soit fait avec, voilà, dans le calme, la dignité, etc., avec respect, avec pudeur. Là, les mots sont assez clairs. Et ne se pare, c'est pas ça qui est écrit. Il y a juste marqué « vêtu », ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits. Et tout ça, il faut le replacer dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire on parle de la prière. Et en fait, là, je vous ai fait court l'étude, mais sur la partie des hommes, quand il est expliqué de lever les mains, en fait, c'est une manière de dire attention aux hommes d'être dans la prière, avec sans colère, sans violence, et sans emportement, etc. C'est-à-dire... C'est pas la posture physique qui importe, mais quand on va creuser le verset concernant les hommes, c'est la posture, on va dire, spirituelle. Et puis l'intention, l'état d'esprit. Et donc là aussi, en fait, on est en train de nous dire que ce qui importe, ben ouais, c'est pas la manière dont on est habillé. Ce qui importe, l'emphase du verset, c'est l'intention, le fait. Aussi qu'il n'y ait pas de l'effronterie, de l'impudence et des choses comme ça par rapport à l'état d'esprit dans lequel la femme se met pour la prière. Alors, si on veut passer à juste la diapo d'après pour parler de la deuxième. Alors, la manière dont on peut réécrire ce verset avec la compréhension du grec, c'est de la même manière que les hommes, les femmes doivent prier avec une conduite réglée dans le calme, la bienséance, avec pudeur et avec modération et prudence et sagesse. Tout ça, c'est la on va dire la substantifique moelle là du verset. On peut réécrire comme ça, d'une manière moins littérale, quoi. Et vêtu ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et quand on va regarder dans le grec, ni cette négation, c'est une négation qui est utilisée dans des négations relatives. C'est-à-dire, il vaudrait mieux pas. Alors qu'il y a un terme grec qui est ou. Et là, c'est une négation jamais, quoi. Fais jamais ça. Donc là, on se rend compte en lisant le grec que oui, c'est quelque chose de relatif. C'est il vaut mieux pas. Mais il vaut mieux pas quoi? Pourquoi il vaut mieux pas mettre de tresse? Parce qu'à l'époque, c'est la manière dont on reconnaît celles qui servent certaines idoles romaines. Et surtout à l'époque des Corinthiens, à Corinthe, où il est donné un exemple des Vestales qui sont là à consacrer leur vie à des idoles et qu'on reconnaît parce qu'elles ont des tresses. Alors, les perles, c'est quoi? Les perles, dans la Bible, je ne vous fais pas le détail, c'est un ornement pour les étrangères. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, il n'y a pas de perles en Israël. Et quand on en parle, par exemple, la Tsunamite, il y a un lien avec les perles, elle est étrangère. Donc, en fait, au travers des perles, de l'or, etc., l'or aussi, on peut faire le lien avec... D'autres choses qui montrent qu'en fait, c'est pas l'or ou la perle ou la tresse en tant que telle, c'est ce que ça représente qu'il faut éviter. Donc, encore une fois, c'est dans l'intention qu'est le problème. Et puis aussi dans le fait que notre foi soit compréhensible des autres. À l'époque, s'il y avait une femme qui allait à l'église avec des tresses, bah, les gens auraient dit, mais. Elle vient pour quel dieu, là, en fait? Elle vient prier qui? Elle vient adorer qui? Parce qu'elle va à l'église, mais elle a des tresses comme si elle allait prier Vesta. Donc, c'est pas logique. Donc, dans la compréhension qu'on donne aussi de notre foi, il y a la manière de se comporter. Donc, je crois qu'il y a une dernière diapo, mais je suis pas sûr de... Deux? Vas-y, fais voir la suivante. Ouais, bon, c'est pour résumer, en fait. La fin qui dit voilà, se parer de bonnes œuvres, c'est-à-dire ce que Paul demande à la femme, c'est d'être un canal, puisque se parer, c'est dans le sens de transporter, de faire passer quelque chose de droit et de juste. Et donc, en fait, la personne qui a fait l'étude dit, ben, on en revient exactement à la description de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. C'est pour dire que là encore, on peut faire un lien avec l'Ancien Testament et dire, ben voilà, Paul, il est en train de décrire la manière dont les hommes et les femmes devraient se comporter pour que ce soit bon pour eux et bon pour les autres et la compréhension de tous et puis la foi qui est vécue et la démonstration de la foi. Et forcément, c'est cohérent avec ce que l'Ancien Testament avait déjà signalé par rapport aux croyants de l'Ancienne Alliance. Alors, là, l'étude, elle est sur Internet, ça dure une heure. Hein. Pour expliquer le verset, ça dure une heure avec des diapos comme ça. On va dans le grec, on va dans l'hébreu, on va dans un sens, on va dans l'autre. Et c'est pour dire que, oui, il peut y avoir des choses compliquées, mais si on ne les comprend pas, ça, bon, l'histoire des tresses, ça peut paraître anodin, mais il y a des questions beaucoup plus importantes, beaucoup plus fondamentales dans la foi chrétienne que des non-croyants vont nous poser et nous dire, oui, mais pourquoi Jésus ceci et pourquoi... Et si on n'a pas essayé de comprendre, de retenir... tous ces aspects-là, bah, on va se retrouver à dire bah, je sais pas. Alors, c'est pas grave, dans un sens, de pas savoir. Mais il faut pas rester dans cette méconnaissance. Et c'est surtout que si on est amené à évangéliser et puis à aller amener la parole aux autres, Il faut déjà, pour soi-même, l'avoir intégrée, comprise et creusée. On dit qu'on peut, on peut pas emmener quelqu'un plus loin que là où on a été. Donc, si on a lu sa Bible une fois par semaine, vite fait, à dire c'est bon, j'ai lu mon chapitre, et puis qu'on rencontre quelqu'un, on veut l'évangéliser, et puis ben, on se retrouve vite à sec, en fait. C'est un peu notre carburant. Si on ne s'est pas rempli, on va arriver en disant ben, on ne peut pas expliquer ceci, on ne peut pas expliquer cela. Et on ne peut pas aller confronter aussi les visions du monde qui sont fausses. Si on rencontre un musulman, eh ben, comment lui expliquer que Jésus est fils de Dieu? Il n'y croit pas. Il dit non, c'est pas possible. Il est pas mort, puisque en fait il ne peut pas ressusciter. Donc en fait, il croit des choses qui ne sont pas vraies par rapport à qui est Jésus et ce qu'il a vécu. Donc il faut être sûr, nous, de notre foi et de ces aspects-là pour en discuter. Donc c'est pour ça aussi que, non seulement pour nous, mais pour les autres, il est tellement important d'aller creuser la parole pour la connaître, la comprendre et la transmettre. Alors forcément, c'est une prédication sur la Bible. Alors j'ai plein de versets, mais je regarde lesquels vont être importants à vous transmettre. Il y a un aspect qui, pour moi, me semble important, c'est que à partir du moment où on veut suivre Jésus, on sait qu'on s'embarque sur un chemin de transformation, de sanctification. C'est-à-dire de supprimer petit à petit les choses qui sont humaines et terrestres, négatives. Et Dieu nous a fait humains et terrestres, c'est pas en soi négatif. Mais ce qu'on a de mauvais en nous, Dieu veut nous transformer. Et quand, dès le début de la Bible, Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est pas un absolu pour nous. On n'est pas à son image, là, comme ça, aujourd'hui. On est en chemin. Et notre exemple, c'est Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de Dieu, forcément. Et d'apprendre qui est Jésus, ce qu'il a vécu, de la manière dont il a pu vivre sa connexion, sa relation avec le Père. Et toutes ces choses-là, ça nous permet d'avancer aussi, nous, sur notre connaissance, notre compréhension de la volonté de Dieu. C'est Romains 12:2, un verset connu qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc là, on voit qu'on a un effort à faire pour essayer de connaître et comprendre, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, on tire cette connaissance et cette compréhension de la lecture et de l'étude de la Bible. Ne serait-ce que de lire, il y a 4 évangiles. Bon, bah, quand on en a lu un, on connaît l'histoire, quoi. Ah oui, mais quand même, Dieu a tenu à ce qu'il y ait 4 versions de la même histoire. C'est parce qu'il y a une importance dans le fait, non seulement de répéter des choses, mais de les répéter des fois avec des différences qui nous permettent d'avoir des compréhensions supplémentaires, des points de vue supplémentaires de certains moments. Et du coup, d'aller creuser, d'aller comparer et de mieux comprendre ce que Jésus a fait sur terre. Alors Paul encore dit dans Colossiens 2, il est en train de parler des gens religieux et il dit en vérité, ils ont une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Et on se rend compte au fur et à mesure du temps que certaines personnes ont cet engagement religieux, mais ne sont pas transformées. Et dans l'Église, après 5 ans, ils ont toujours le même problème, et après 10 ans, ils ont toujours le même problème, et après 20 ans, ils ont toujours le même problème. Parce que ça ne va pas venir d'aller demander la prière et que Dieu vient me transformer. Ça vient aussi d'un engagement et de l'acceptation d'être transformé. Et malheureusement, il y a des choses, je dis ça, mais moi aussi, quand je me regarde, je dis, purée, il y a combien de temps que je traîne ce problème ? C'est pas, personne, on est tous pareils, on a tous des choses qu'on comprend très vite, on change très vite, puis d'autres, il nous faut, on est parfois lent à comprendre. Mais de lire la parole, d'être confronté à ce que, là, il dit des choses fortes, quoi. Paul, encore une fois, il dit, attention, ça a une apparence de sagesse. Tout ça, finalement, ça vient flatter un certain ego, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui est connecté à l'esprit de vie. Et il continue en disant, au début du chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Donc on est appelé à essayer de comprendre, et les choses d'en haut, elles sont expliquées dans la Bible, dans la parole. Il nous est parlé des anges, il nous est parlé des démons, il nous est parlé des combats spirituels. Toutes ces choses que si on reste dans notre vision terre à terre, on ne voit pas, on ne comprend pas. Et on peut rester longtemps avec des problèmes qui ne disparaissent pas, parce qu'on peut faire tous les efforts humains qu'on veut, c'est spirituel. On peut avoir des blocages pendant longtemps. Et si on ne comprend pas une source spirituelle qui sur laquelle il faut avoir une victoire, par exemple, eh ben on ne va pas pouvoir avancer sur ces points-là. Et donc, au travers de la prière, de la relation à Dieu et de la lecture, l'étude de sa parole, on comprend petit à petit ces choses-là, on a des révélations de ces choses d'en haut, de ces choses spirituelles qui impactent nos vies. Alors pour pas, ouais, je vais essayer de conclure. Il me reste quelques pages, mais je ne peux pas tout dire. On est invité à plusieurs reprises à nous nourrir de la parole. Voilà Matthieu 4 qui dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc c'est notre croissant du matin, d'aller lire notre passage biblique et de nous nourrir. Et en fait, ces études-là que je citais tout à l'heure, à qui lit la Bible, et etc., ils sont allés plus loin et ils ont dit ceux qui lisent leur Bible le matin y a deux aspects. Le chrétien, plus il va à l'église et plus il lit sa Bible pour lui au quotidien. Il y a cette dynamique déjà qui est aussi bénéfique, c'est de se dire, on va à l'église le dimanche matin, bon, on lit quelques versets, on peut dire que c'est déjà pas mal, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des exemples et des amis qui, autour de nous, sont là, plongés dans la parole et qui viennent nous démontrer à quel point c'est précieux d'être attaché à cette lecture quotidienne, à aller chercher les trésors que Dieu a mis dans sa parole. Et puis, plus un chrétien lit sa Bible, et plus il pense aux vérités bibliques durant sa journée. Et si on commence le matin, j'ai pas mon téléphone, en allant regarder les actualités, alors bon, on va penser Covid toute la journée, là, c'est une angoisse totale. Alors que si on commence notre petite matinée, on peut ouvrir notre appli Bible, et puis tomber sur un verset qui nous dit, bah voilà, psaume 1. Heureux l'homme, un peu plus loin, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On lit ça le matin, on commence bien la journée, je pense. C'est encourageant. Et quand on se retrouve dans une situation dans la journée compliquée, on fait « Ah Seigneur !» Tout ce que je fais réussit et tu es là pour me permettre que ma vie porte du fruit. Et que s'il y a des choses compliquées dans la journée, on se dit oui, mais je ne vais pas me flétrir, je ne vais pas me rabougrir, je veux me connecter au Dieu Tout-Puissant qui va me ressourcer, me renouveler, me permettre d'avoir les bonnes réactions. Donc la lecture de la parole est vraiment importante chaque jour. Et puis cet aspect de nourriture, c'est encore Paul qui nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on voit qu'il y a besoin de grandir spirituellement. Et cette croissance, elle se fait, c'est l'image biologique, cette croissance se fait en se nourrissant et en se nourrissant de bonnes choses. Et la parole de Dieu est la nourriture spirituelle qui nous aide à grandir. Et c'est un Pierre 2 aussi qui dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Donc, on est encore là à venir nous nourrir. Et Pierre nous dit « Mais désirez ce lait pur, désirez cette soif de la parole. » Et je pense que c'est une... Il y a des prières... que Dieu exauce tout le temps, c'est quand on insiste pour qu'il nous donne la soif de sa présence, la soif de sa parole, la soif de vivre avec lui, ce que lui a dans le cœur, ce que lui a prévu. Et si, comme ça m'est arrivé, je vous disais tout à l'heure, il y a des périodes où c'est sec et vous avez du mal, mais insistez dans la prière. Seigneur, donne-moi soif. Donne-moi soif de ta présence. Donne-moi soif de lire ta parole. Et c'est, je peux vous prophétiser qu'il va répondre à votre prière. J'en suis certain. Alors, il y a plein de versets. On pourrait lister tous les bénéfices à lire la parole. Voilà, le psaume 119 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et je trouvais... On lit ce verset, puis on se dit « Ah, oh, c'est encourageant, la parole, elle nous dit des choses. » Mais c'est plus précis. Pourquoi il dit « à mes pieds » ? Et c'est une lampe à mes pieds. À mes pieds, ça représente... Je suis là, et je dois mettre mon pied là. Et là, j'ai de la lumière, là. Je sais où je dois poser mon pied. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce que je dois faire. Ça, la parole de Dieu me dit ce que je dois faire, le pas d'après. Et pourquoi il dit après, sur mon sentier ? Parce que quand la parole va éclairer le sentier, c'est ce qui est devant, loin, plus loin. Et donc la parole, elle ne va pas seulement nous dire comment faire aujourd'hui notre pas du quotidien, mais nous donner aussi la direction, nous montrer, nous donner une vision de l'objectif. Et donc, ce petit verset nous dit que Dieu prend soin de nous au travers de sa parole pour nous dire quoi faire aujourd'hui, mais aussi où est-ce qu'il veut nous emmener. C'est, voilà, je trouve ça incroyable. C'est des versets comme ça sur lesquels on peut approfondir la volonté de Dieu pour nous qui est tellement bonne. Alors, je veux juste conclure en citant Napoléon.
Ah ouais, bon.
C'est assez rare quand même dans une prédication, mais Napoléon a dit « L'Évangile possède une vertu secrète. Je ne sais pas quoi d'efficace et de chaleureux qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. » Parce que Si on veut boucler la boucle, Jésus est la parole de toute éternité. Il est Dieu, il est éternel. Et en fait, quand Dieu permet à au moins la quarantaine d'auteurs sur 3000 ans d'écrire sa parole, d'inspirer chaque mot, il est en train de parler de Jésus. Et puis Jésus vient incarner la parole qui a déjà été donnée pour la compléter, pour la finaliser. Ce qui nous permet d'avoir le Nouveau Testament, là. Et puis il repart en gloire, reprendre sa place aux cieux. Et C'est du coup la Bible, c'est Jésus lui-même en fait qui se révèle, qui révèle son plan, qui révèle son amour, qui révèle qui il est et qui est glorifié au travers de ce qui est écrit. Jean 1 nous dit « La parole a été faite chair. » Mais la parole qui était avant que l'homme soit là, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est Jésus lui-même qui dit en Jean 5 « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage. » Et il dit plus loin, en Jean 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, cette Bible, c'est Jésus qui se révèle au fur et à mesure de nos lectures, de nos approfondissements. Et j'aimerais juste vous finir avec cet encouragement. Lire la Bible, c'est pas lire un livre, c'est être en relation avec Jésus-Christ lui-même. Et de cette manière, on peut retrouver ou augmenter notre amour pour sa parole et pour le temps qu'on y consacre et pour cette soif d'aller creuser, parce qu'on n'aura jamais toute une vie pour trouver toutes les pépites, toutes les perles, toutes les choses merveilleuses et incroyables qu'il permet dans sa parole, ne serait-ce qu'en français. Et je vous dis, quand on part dans le grec et dans l'hébreu, c'est des choses totalement incroyables. Et sa parole est incroyable. C'est vraiment un reflet de l'intelligence incroyable de Dieu et du fait qu'il a ce désir profond de communiquer avec nous. Et la première chose étant ce qu'il a pu nous écrire. Et est-ce qu'au travers de la prière, on peut réussir à comprendre et capter de cette écriture? J'aimerais juste prendre un petit temps de prière par rapport à ça. Et juste avec humilité, Seigneur, je veux me remettre devant toi ce matin. Et j'aime ta parole, mais je sais que je suis tellement loin d'être assidu comme j'aimerais. Et comme Paul le dit, bien je ne fais pas ce que j'aimerais et je fais ce que je veux pas. Et c'est pour ça que moi-même et mes frères et sœurs ont bien prié pour que tu viennes susciter en nous ce vouloir et ce faire, ce désir de creuser ta merveilleuse parole et de nous donner également cette facilité de nous organiser, de tenir dans notre choix d'être régulier dans notre lecture. Et viens, Seigneur, vraiment nous éclairer déjà dans cette semaine, nous révéler des choses au travers de nos lectures, que ce soit quelques versets, que ce soit plusieurs chapitres. Viens nourrir notre âme, notre esprit, notre intelligence de ce que tu as mis de bon et de parfait dans ta parole. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons aimer cette lettre d'amour que tu nous as envoyée et nous voulons la chérir, la lire et la relire et la comprendre en profondeur parce que c'est une manière de te comprendre, de te connaître et d'être avec toi dans une relation toujours plus forte et plus profonde. Merci pour ta parole. Amen.